Dans les couloirs du salon Big Data et IA 2021, dont Visionary Marketing était partenaire, je suis tombé en arrêt sur une expression « le data journalisme d'entreprise ». J'ai donc interviewé Maxime Boisseau sur le stand de Midral, un jeune étudiant et data scientist qui m'a démontré, si besoin était, que la valeur n'attend pas le nombre des années.
Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion.
Bonjour, je suis Yann Gourvennec, vous êtes bien sur les podcasts de Visionary Marketing, et le sujet du jour, data journalisme d'entreprise mieux géré avec les données. Le data journalisme d'entreprise consiste à utiliser de l'UX et de l'UI design. En d'autres termes, il s'agit de réaliser des tableaux de bord pour des décideurs métiers qui ont besoin de représentations graphiques afin de prendre des décisions. Selon les problématiques, les consultants chargés d'établir ces tableaux de bord vont donc s'adapter aux besoins des clients pour concevoir des indicateurs, KPIs en bon français, efficaces, utiles pour piloter leur BU, Business Unit. Le terme de data journalisme d'entreprise semble donc, si je comprends bien, recouvrir la notion de business intelligence ou informatique décisionnelle remise au goût du jour avec des outils plus modernes. Il n'en reste pas moins que le nom est évocateur et qu'il m'a semblé très bien choisi. Je vous laisse en compagnie de Maxime Boisseau qui va vous expliquer tout cela. Alors je suis avec Maxime Boisseau de Midral. Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Alors vous faites du data journalisme d'entreprise. C'est quoi Exactement. Le data journalisme d'entreprise?
En fait, le data journalisme d'entreprise, c'est tout simplement le fait d'utiliser de l'UX et de l'UI design afin d'aider les entreprises à mieux gérer leur équipe à travers des dashboards faciles d'utilisation, autant pour les métiers que les managers.
Donc, dit en français, ça veut dire que vous faites des tableaux de bord pour des décideurs métiers qui ont besoin de représentations graphiques pour prendre des décisions, en fait.
C'est ça, exactement. Donc, selon leurs problématiques, on s'adapte à le besoin du client pour construire des KPI efficaces qui seront utiles pour piloter sa BU.
Alors, la base, il y a un problème de base chez ces directeurs métiers, c'est que finalement, ils ont du mal à aller chercher des données et ils ont du mal à les représenter, c'est ça?
C'est ça. Tout dépend en fait de l'architecture de leur base de données. Donc on est là pour les aider à se connecter dessus, à la récupérer, à la traiter et enfin effectivement de faire des dashboards visuels pour les aider à se piloter.
Alors pourquoi ils ont un problème justement à aller chercher les données? Ils en ont déjà beaucoup chez eux qu'ils n'utilisent pas?
C'est ça. En fait, selon le flux de données qu'ils ont, on peut se retrouver avec des centaines de millions de lignes, voire des milliards de lignes. Et c'est vrai que pour des managers qui ont... tout dépend aussi de la taille de l'entreprise. Si l'entreprise a des équipes qui peuvent s'occuper de la base de données, il se peut qu'ils n'aient pas les compétences pour en faire des dashboards et des devises. Ou alors l'entreprise peut carrément ne pas avoir d'équipe de données qui puisse traiter cette information-là et on intervient à ce moment-là pour les aider.
Alors ça fait des années que je participe à des tables rondes sur les big data et ça fait des années qu'on me dit les marketeurs vont devoir acquérir la connaissance de la donnée. Mais finalement, on est toujours au même point.
Alors oui, c'est vrai que c'est un point quand même assez important pour les entreprises. Même, on le voit, personnellement, je le vois de manière assez importante. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent mettre en place des stratégies data pour leur marketing, pour mieux piloter justement leurs prospects, mieux piloter l'aspect interne de l'entreprise. Et je pense que c'est un point important. Je pense qu'on a quand même évolué depuis un certain temps. C'est vrai qu'à l'époque, il y a 2-3 ans, je doute que les entreprises aient... que beaucoup de marketeurs utilisaient la data pour mettre en avant l'entreprise. Et maintenant, ça se fait de plus en plus. Maintenant, avec le coronavirus, on a dû utiliser de plus en plus de données, en émettre de plus en plus. Et ça va se démocratiser. Voilà, ça va aller crescendo, je pense.
Alors, comment on fait pour établir un bon tableau de bord? Quelles sont les bonnes astuces?
Ah, les bonnes astuces pour faire un bon tableau de bord. Déjà, il faut avoir une charte graphique assez cohérente avec son entreprise. Déjà, je pense que c'est quelque chose qui est souvent demandé. Ensuite, il faut avoir des vises percutantes, donc des graphes percutants. À titre d'exemple, le Sankey, par exemple, qui est une graphe assez percutante. On peut avoir des graphes de Pareto pour montrer du 80-20. On peut aussi avoir des graphes, on va dire, en donuts. C'est des choses assez classiques que les gens aiment bien voir. Et surtout, l'astuce, c'est vraiment travailler sur le design, donc les couleurs, pour que ça ressorte bien. Et surtout, aller d'une vision, on va dire, assez large pour aller vers du plus précis quand on descend au niveau de l'information.
Est-ce que vous pouvez décrire les étapes différentes qui vous amènent au résultat final?
À différentes étapes. Alors, je pense pour moi, la première étape, c'est de comprendre la problématique client. Donc, déjà, poser la problématique. Ensuite, mettre en place quelques KPI, donc pas trop, faut pas que les dashboards soient trop chargés. 5-6 bons KPI sont beaucoup plus impactantes qu'une quinzaine qui seront noyées dans la masse. Et ensuite, tout simplement, voir avec le client, pourquoi pas un storytelling pour raconter quelque chose, en fait. Raconter une histoire, comme par exemple, on va voir sur cette vise-là. Donc on part en fait sur des explications sur l'immigration aux États-Unis avec une petite carte. Ensuite on descend dans les explications avec qui est-ce qu'il immigre. Et encore plus bas on peut voir, là en l'occurrence en Europe, dans quel pays les gens immigrent avec des chiffres. Et on peut voir en fait qu'on a une vision très large et on va aller vers du plus précis vers le bas.
Alors est-ce qu'il y a aussi des écueils à éviter quand vous établissez ce genre de tableau de bord?
Ah, des écueils à éviter. Ah, je pense, en vrai, au niveau graphique, c'est vraiment faut avoir du bon goût. C'est le point numéro 1, je pense. Mais surtout, éviter de vouloir trop surcharger, je pense, sa vise. C'est le plus gros point noir, c'est vouloir mettre trop de texte à des endroits où ce n'est pas important. Le but, c'est de limiter le texte pour au contraire y mettre des graphes qui ont un impact vraiment important au niveau de la compréhension. Donc pour moi, le conseil, c'est vraiment éviter de mettre trop de texte qui serait malheureusement indigeste.
Est-ce que vous avez des exemples clients que vous pouvez nous citer où le tableau de bord a joué un rôle particulièrement important?
Donc par exemple en assurance, on a des clients qui ont besoin de connaître le fonctionnement de leur équipe, les données que génère leur équipe au niveau de leur temps de travail, de leur efficacité. Et donc là, ils ont besoin d'avoir un dashboard efficace pour justement monitorer chaque équipe, parce que dans mon cas, ils avaient une trentaine d'équipes, ce qui est énorme, et le manager en général a besoin d'avoir des graphes faciles et d'utilisation pour lui permettre justement de prendre les bonnes décisions de managériat.
Et donc ça, je suppose que c'est un tableau de bord qui se met à jour régulièrement?
C'est ça, c'est des tableaux de bord automatisés. Donc on va récupérer les données directement via leur base de données. En l'occurrence, le client pouvait lui-même traiter ses données. Donc on se connecte dessus et toutes les semaines, le lundi matin, il reçoit dans sa boîte mail un rapport hebdomadaire qui lui permet d'avoir cette vision-là.
Alors ça prend quand même beaucoup de temps pour établir un tableau de bord comme ça?
Moi, en l'occurrence, ça a pris en tout et pour tout 9 mois, il me semble. Moi, j'ai intervenu sur les 3 derniers mois et mon équipe, l'équipe avant, était en charge, on va dire, d'une partie du tableau de bord en amont. Mais c'est que c'était un tableau de bord qui était vraiment assez long à mettre en place, assez complexe au niveau des graphes à mettre. Et voilà.
Et il se met à jour automatiquement après?
C'est ça, on est sur la base de données, donc on est connecté directement et quand la base de données se met à jour, alors c'était tous les matins, tôt le matin, et notre tableau de bord avec Tableau, justement, juste après, se met à jour et est complètement interactif.
Alors 9 mois de projet, ça va coûter des millions de dollars?
Voilà, malheureusement, j'ai pas vu le prix, mais ça chiffre un peu, mais l'équipe est assez petite sur ce projet-là. Donc au final, ce qui a pris surtout plus de temps, c'est l'accompagnement client justement pour chercher les bonnes KPI, parce qu'ils avaient vraiment beaucoup, beaucoup de données. Donc là, on parle en centaines de millions de lignes. Et c'est vrai que du coup, il a fallu faire un gros travail en amont de KPI efficaces pour que le manager puisse mettre en production le dashboard. Mais c'est vrai que ça lui a beaucoup, beaucoup servi parce que c'est vrai qu'il perdait beaucoup de temps sur certaines tâches, sur certains projets. Et ça leur a permis justement d'avoir une meilleure allocation de leurs ressources. Donc au final, oui, ça a un impact significatif, notamment sur le temps de travail des équipes sur leurs différents projets.
Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion.
Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.